C'est une joie d'accueillir le professeur Olivier Jonquet ici dans ce contexte particulier de recherche et de témoignage aussi, de partage d'expériences autour de quelques aspects du message de Sainte Thérèse d'Avila. Le professeur Jonquet est médecin. Mais je ne me souviens plus trop de ses titres.
Je suis voilà. Assis sûrement derrière.
Ah oui, comme le pape d'ailleurs. Donc, en tout cas, un très grand merci à lui et à son épouse Colette d'être venus nous aider à réfléchir et nous encourager aussi dans notre mission. Donc, voilà, merci beaucoup d'avance et bon courage.
Bon courage à vous. Merci, Père Étienne. Alors, je ne sais pas si je dois remercier le Père Étienne Michelin de m'avoir demandé de parler ce matin. Il faut se méfier de ses amis. En effet, je m'adresse à des prêtres, des laïcs consacrés, des foyers de Notre-Dame de Vie, des jeunes professionnels qui sont tous imprégnés de la spiritualité du Carmel. Bref, des pros de Thérèse. Moi, je ne suis ni prêtre, ni théologien, ni philosophe, ni historien. Je suis père de famille, médecin, universitaire, et je fais appel à votre indulgence, je me sens tout petit. Alors, pour me rassurer, le père Étienne m'a dit, un prêtre, dans un sermon, il a droit à 3 hérésies par sermon. Je t'en autorise 10, donc à vos crayons, vous me direz après. Alors, parler en professeur, ce n'est pas possible quand il s'agit d'expérience. Et je n'ose plus dire que je parle en témoin, parce que qu'est-ce qu'un témoin? C'est celui que les autres désignent ainsi. C'est ainsi que le père Michel de Certeau introduisait un petit ouvrage, « L'étranger » ou « L'union dans la différence ». Alors, il y a quelques semaines, j'étais à Lille pour participer à un congrès. Bon, fin d'après-midi, je me suis retrouvé au Furet du Nord, la librairie de Lille, et j'étais frappé par une constatation. Il y avait un rayon religion, qui était fourni avec des livres de théologie, des témoignages, etc. Mais pas grand-chose sur la prière, sur la vie intérieure. Et par contre, il y avait un rayon sur le développement intérieur, spiritualité, ésotérisme, développement personnel, méditation zen, de pleine conscience, etc. Et à mon fort intérieur, je me disais, mais quel gâchis de laisser tout ça à du bouddhisme de magazine, et alors que la spiritualité chrétienne, autant celle de l'Orient que de l'Occident, ces deux poumons, recèle tant de trésors, ignorer les pères du désert, des pères du désert à Thérèse de Lisieux, en passant par, bien sûr, le père Marie-Eugène, les pères de l'Église, les mystiques rénans, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, François de Sales, Ignace de Loyola, les pères allemands, Surin, l'école de spiritualité française, bref, on a quand même du matériel pour en parler. Mais la vie spirituelle pour le Pékin moyen et la prière sont encore vues et réservées aux moines, aux religieux, et la vie mystique, on l'entend encore, est réservée à l'expérience mystique. Et pour moi, alors je vais peut-être vous choquer, mais la statue du Bernin, retraçant l'épisode de la transverbération de Thérèse d'Avila, qui est représentée comme un orgasme mystique avec un ange sadique qui sourit, là, qui pique Thérèse, ça me choque. Pour moi, c'est une offense qui lui est faite. Et toute l'œuvre de Thérèse d'Avila, elle est là pour dépasser ce type d'expérience dont elle se méfiait. D'autant plus que dans le contexte de l'époque, on l'a vu hier, les alumbrados, qu'on pourrait traduire par les allumés, intéressaient bougrement les inquisiteurs. Alors, la vie mystique, Bon, bien sûr, il y a une dimension nuptiale, mais encore la dimension nuptiale, bon, les gens mariés, il n'y a pas que l'extase dans la vie nuptiale, mais il y a aussi une dimension filiale, il y a une dimension fraternelle, enfin, il faudrait un colloque, hein, une idée pour les... Bon, mais le problème, c'est que les artistes, les écrivains, les dessinateurs, et pire encore, les clercs, ne se sont fixés que sur cet aspect de la vie mystique. Alors mon plan sera très simple, il est dans le titre, Science de la vie intérieure, engagement professionnel aujourd'hui, donc il y aura ce qui est pour moi ma vision un peu de Thérèse, l'engagement professionnel, et puis voir quelques conclusions pratiques. Alors sa science de la vie intérieure, ce qui frappe quand on lit Thérèse, c'est sa franchise. On parlait de biographie, eh bien c'est transparent. Elle ne cache pas ses périodes de médiocrité. Et en cela, elle me rassure, et je pense qu'elle vous rassure. La vitalité qui l'anime aussi, elle me stimule. Elle fatigue aussi parfois, hein, parce que tout le temps à droite, à gauche. Moi. Jean de la Croix, il est plus monolithique. Il donne l'impression de traverser les épreuves de manière impassible, alors que, comme je disais quelque part, il a bien connu quand même, il a bien vécu son nom. Et quand on parle de Thérèse d'Avila, c'est sa méthode de raison, les étapes, les difficultés qu'elle émaille de détails qui sont souvent savoureux. J'y reviendrai peut-être si j'ai le temps. Cependant, pour moi, cette science de la vie intérieure, elle est ancrée dans sa vie. La vie tout court. Et relisons sa vie, la vie, dans toutes les premières pages. Sa vie intérieure prend racine dans sa famille, dans son milieu, un père aimant, une mère qui est trop tôt disparue, et tous deux animés d'une grande foi. Et la lecture des vies de saints lui donne des grands désirs de mourir en martyr, hein, qui donne le titre « Je veux voir Dieu » à l'ouvrage de PME. Et c'est le... Oh, pas Père Marie-Eugène, bon, c'est PME. Pour nous, c'est PME. Le PME. Et en octobre, nous sommes allés en voyage familial, puisque c'était un voyage familial avec la famille de Notre-Dame de Vie à Avila, avec Teresa Martin, le père Étienne. Et c'est beau de voir le lieu où soi-disant, le cousin ou l'oncle est venu rattraper par la main la petite fille et le petit garçon qui partaient pour aller mourir. Et ça, je ne sais pas si c'était le vrai lieu, mais ça donne une impression. Et puis c'est beau aussi de voir le biotope dans lequel a vécu Thérèse. Le témoignage aussi dans sa vie de la bonne sœur Donia Maria de Briceño, qui avait la surveillance des dortoirs des pensionnaires. C'est par elle que le Seigneur voulut bien, me semble-t-il, m'éclairer. Et c'était la seule lecture de cette parole de l'Évangile, car beaucoup sont appelés et peu d'élus, qui l'avait décidé à se faire religieuse. Comme quoi, c'est pas la mère supérieure du couvent ou de l'institution qui l'avait marqué, c'est la sœur qui était chargée des pensionnaires. Ça doit faire réfléchir parfois. Par la suite, donc, la contemplation des récits évangéliques va servir de support et d'illustration à son oraison. Sans oublier le troisième abécédaire du père de Osuna, on en a parlé hier, ou l'histoire de Job, hein, dans les Moralia de Saint Grégoire. Et cette contemplation des récits évangéliques, c'est important parce que souvent, on voit la vie spirituelle comme on plane. Et on plane et on est sur les nuages. Alors qu'on est des êtres de chair. On va prier avec son corps, avec ses états d'âme. Et là aussi, c'est important de prendre conscience de ça. Et d'ailleurs, elle a dit, Thérèse, hein, quand vous êtes bien, ben vous priez, vous êtes bien, et puis vous êtes mal, vous priez, vous êtes mal, et vous dites que vous êtes mal. Donc, priez avec son corps, et non pas quelque chose d'irréel ou de désincarné. Mais le fondement de Thérèse d'Avila, c'est cette expérience de Dieu chevillée au corps, qui la tourmente, et qu'elle trouve dans saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi ou mon Créateur qui vit en moi. Alors, elle n'a pas Internet pour récupérer l'exactitude de la citation, et la citation dont elle fait mémoire, et la vraie, c'est « Ce n'est plus moi ce qui vit, c'est le Christ qui vit en moi ». Mais c'est cette expérience qui est fondatrice. Dieu vit en moi, et c'est cette vie qui doit s'exprimer d'abord dans la prière, dans l'oraison, et puis dans les œuvres inséparables de la joie. Hein, prière, oraison, joie. Oraison, œuvre, on ne sépare pas les deux, et la joie non plus, on ne sépare pas les trois. L'oraison, ce commerce d'amitié, un entretien fréquent, c'est la seule. Et relisez ce paragraphe 5 du chapitre 8 de la Vida, de la vie. Il y a toute l'oraison résumée. Malgré les hauts et les bas, ne jamais abandonner cette vie intérieure qui n'est pas regarder notre vide, notre nombril, mais regarder le Christ. Persévérance et espérance dans la foi et l'amour du Christ, c'est les deux mamelles de l'oraison. Cette vie intérieure, je l'ai évoquée, est nourrie, entretenue, vivifiée par l'Évangile et la contemplation des scènes évangéliques. La personne du Christ, elle est centrale pour elle. On n'insiste pas assez sur le Christ dans la vie de Thérèse. Enfin, je le ressens comme ça, hein. Peut-être que vous, c'est pas pareil, mais moi je le ressens comme ça. C'est lui qui l'a fait tenir. C'est cette conviction qu'il est en nous. Et elle en a mis du temps à obtenir cette confirmation. Au milieu de l'inquisition et de confesseurs divers plus ou moins bons. Et donc, c'est aussi important de voir que ce sont des franciscains, des dominicains, des jésuites, dans cette efflorescence de l'Espagne de l'époque, qui l'ont accompagné et confirmé dans son intuition, et qui n'ont cessé de l'aider dans l'épopée aussi de ses fondations, parce que quand on lit les fondations, heureusement qu'il y a un jésuite par-ci, un dominicain par-là, un franciscain par-là, un évêque par-ci, et puis quelques bienfaiteurs au milieu. Nous sommes encore imprégnés de la chape d'un Dieu extérieur qui nous aime certes, mais comme moi j'aime mon chien ou mon chat, quoi. Il est là-haut, Dieu. Or, c'est un Dieu qui s'est incarné. On a récité hier à la fille de Vêpres, le Christ Jésus ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé, devenu semblable aux hommes, et reconnu homme à son aspect, etc., et devenu obéissant, et la mort sur une croix. On devrait savoir ça par quoi, cœur. Est-ce que hier, quand nous l'avons récité, est-ce qu'on en a été imprégné jusqu'au fond des tripes? Je sais pas. Moi, je sais pas. Alors, une parenthèse, le Carmel, c'est pas l'Église, pas plus que d'ailleurs que les dominicains, les franciscains, ou les jésuites, même si notre Saint-Père est jésuite. Et c'est comme une montagne, hein, ce que nous essayons, d'ailleurs la montagne du Carmel, elle est là pour le dire. Vous avez ici le Ventoux, à Aix, vous avez la Sainte-Victoire, à Montpellier, nous on a le Pic-Saint-Loup, c'est plus modeste. Mais le sommet, c'est le même. Et les voies d'abord, quand on les regarde selon l'axe, il est différent. Et les voies d'abord, elles sont différentes. Mais le but, c'est le sommet, quoi. Alors, il ne faut pas être des facteurs d'orgue. Et souvent, qui créent des cloisons. Et souvent, dans l'Église, on crée des cloisons. Hein. Et notre problème de catholique, là, pratiquant, qui nous aimons bien, c'est que souvent, on ne s'aime pas entre nous, quoi. On crée des cloisons. Moi, je vais chez les dominicains, moi, je vais chez les jésuites, moi, je vais chez les carmes, moi, je vais à la paroisse. Et on crée nos cloisons et on regarde les autres avec une certaine suspicion. Alors, dans la maison de son père, il y avait un tableau qui représentait la Samaritaine. Et Thérèse l'évoque souvent. Là aussi, hein, l'art. Hein, on va y revenir. Ça a nourri sa vie intérieure. Et c'est important parce que là, elle s'est rendue compte que Dieu demandait aux hommes. Dieu donnait, mais Jésus demandait à la Samaritaine, j'ai soif, donne-moi à boire. Et cette notion du puits, de l'eau, hein, c'est toute l'analogie de l'oraison, hein, je tire à la corde, la noria, l'irrigation, la pluie, tout ça, c'est imprégné de sens du concret qui est vécu dans la vie quotidienne, dans ce qu'elle voit, de ce qu'elle sent. C'est ça aussi la vie intérieure. Le Père Étienne l'a dit tout à l'heure, on l'a dit hier. La scène de la passion, alimentée par la représentation du Christ à la colonne, très suggestive des souffrances du Christ, lui rappelle la déréliction du Seigneur dans la scène du jardin au moment de la Passion, et aussi dans la scène du jardin de Gethsémani que vous avez à la chapelle. Et elle aimait méditer cette scène en se couchant, dit-elle. C'est une caractéristique de Thérèse, elle n'intellectualise pas, elle. Elle ne conceptualise pas. Sa foi, elle sent les choses, un peu comme Saint Ignace. Si je puis me permettre un témoignage personnel, c'est lors de la énième audition de l'Évangile, je ne sais pas, j'avais entendu 50, peut-être, et puis je l'avais lu, je ne sais pas combien de fois, de l'Évangile de la Passion, Gethsémani, que je me suis mis à faire régulièrement raison, hein, quand le Christ dit « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi. » Ça ne veut pas dire que ce soit facile, ce n'est pas vous qui me direz le contraire. Et Thérèse le dit bien en parlant des cinquièmes demeures, mais c'est valable pour toutes. Il faut travailler beaucoup, oui beaucoup, et ne nous négliger en rien. Prions-le pour qu'il nous montre le chemin et donne à notre âme la force de creuser sans relâche. Hemos menester mucho, mucho, beaucoup, beaucoup. Hein. Et mollesse et oraison ne vont pas ensemble. La spiritualité de Thérèse, elle est bien centrée sur le Christ, l'amour du Christ. Et pour faire savant, c'est une christologie. Et avons-nous cette conviction chevillée au corps et au cœur, comme dit la chanson, que si nous sommes chrétiens, c'est parce que quelqu'un, un jour, quelque part, a été crucifié et est ressuscité, pour reprendre l'expression de Karl Barth, reprenant à sa manière, si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est sans objet et notre foi est vaine. Le Père Marie-Eugène conclut bien « Je veux voir Dieu » dans le chapitre, dans le Christ total, qui est la fin et le sommet du livre. Et un de vous m'avait dit « Commence par là. » Comme paraît-il, il faut commencer à lire Saint-Jean de la Croix par la vive flamme. Moi, je suis un peu joueur de rugby, je commençais par la montée au Carmel. Mais voilà. Ou la nuit obscure, mais c'est vraiment le but, c'est la finalité de Thérèse. Et cette vie intérieure donc se nourrit aussi donc de contemplation de scènes de l'Évangile, de livres, hein, mais aussi de contact avec des lettrados, des personnes instruites qui permettent de lui confirmer ses intuitions. Alors l'engagement professionnel. Obras quiere el Señor. Ce que veut le Seigneur, c'est des œuvres. Ce n'est pas tout de faire raison, il faut des œuvres. C'est un sujet difficile. On peut reprendre ce que disait Bernanos dans la France contre les robots. Je crois entièrement qu'un homme peut très bien garder son âme et ne pas la sentir, et n'en être nullement incommodé. Cela se voit hélas tous les jours, il écrivait ça il y a 70 ans, donc il faut arrêter de pleurer sur notre temps. De tout temps, ça a été comme ça. L'homme n'a de contact avec son âme que par la vie intérieure, et dans la civilisation des machines, la vie intérieure prend peu à peu un caractère anormal. Je suis né païen, je suis devenu et n'en finis pas de devenir chrétien. L'image, l'exemple, le modèle du Christ dont nous portons le nom. L'Évangile, c'est beau, hein, le Christ, la vie du Christ, c'est beau. Le problème, c'est que quand même au bout, il y a la croix. Il y a la résurrection après, mais enfin, il y a le passage par la croix. Et nous portons l'Évangile, nous avons chacun nos croix, au-delà des apparences, et certains parmi nous plus que d'autres. L'engagement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on ne sait pas trop ce qu'on veut dire, on va regarder le dictionnaire. Alors, quand on regarde le dictionnaire, il y a une évolution du terme. Se lier par une promesse, être poussé à agir par une promesse, puis entrer dans un passage étroit, et encore introduire une unité militaire au combat, et le combat lui-même. Tout à l'heure, Étienne disait, la vie spirituelle, c'est un combat. Eh bien, ça reste, c'est vrai, c'est toujours ça. Et l'engagement professionnel, c'est aussi un combat. Alors, comment m'engager dans ma vie de façon à ce que son visage s'illumine sur moi, et que son chemin soit connu sur la terre, et son salut sur toutes les nations, comme dit le psaume 66. Alors, je ne suis pas schizophrène, médecin universitaire d'un côté, époux, père de famille de l'autre, avec au milieu et en plus une foi chrétienne qui irait de l'un à l'autre. Ou bien pire, une vie intérieure cloisonnée, de manière plus ou moins étanche avec ma vie extérieure. Un fidéisme, qui cloisonne les deux. Et est-ce que souvent, nous n'avons pas tendance à nous cloisonner? J'essaie d'avoir une certaine unité de vie dans la vie de tous les jours. Hannah Arendt, dans un petit livre, La condition de l'homme moderne, distingue, mais elle ne sépare pas, la vie contemplative et la vie active. Dans la vie active, elle distingue trois éléments, le travail, l'action et l'œuvre. J'adapte cette distinction dans mon propos, les philosophes, les spécialistes rectifieront. Le travail, c'est mon métier de médecin universitaire qui doit accomplir trois missions. Soins, enseignement, recherche, avec en plus des fonctions administratives qui deviennent de plus en plus prégnantes. C'est aussi ce travail, ce qui fait que sur une feuille, à la fin du mois, je reçois un chiffre en bas à droite qui me permet de faire vivre ma famille. Mais ma vie active, c'est aussi, et ce travail, c'est aussi ma vie de mari depuis 40 ans, le 20 mars prochain, et de père, et maintenant de grand-père. Voilà. Mais ça aussi, c'est un travail. Et c'est un sacré... c'est un sacré boulot. C'est une vraie profession. C'est au moins comme cela que je la comprends, et à travers ce qu'on appelle le devoir d'État. Et j'avais un ami, un collègue protestant qui me disait, vous, chez les cathos, vous avez une notion qui est importante, c'est le devoir d'État. Alors, je pensais qu'il l'avait, mais il paraît que c'est spécifique à nous, donc il m'a appris quelque chose. Alors, l'action. L'action, c'est le travail quotidien dans l'ordinaire des jours, où je dois être présent, disponible, à mon travail, mes malades, au personnel, aux diverses responsabilités, mais aussi à ma femme, à ma famille, mais aussi mon jardin secret, qui n'appartient qu'à moi. Hein, c'est les lectures, l'histoire, la musique, la poésie, j'aime tout ça, moi. Et ma femme, elle aime ça quelquefois, mais quelquefois elle n'aime pas trop. Hein, aussi l'oraison, elle n'aime pas l'opéra, alors j'écoute l'opéra tout seul, voilà. Elle aussi l'oraison fait partie de la vie, hein. Mais elle en est l'axe. Hein, on voit le travail, enfin l'action, on voit bon la vie professionnelle, etc. Mais l'oraison, c'est aussi une action. C'est aussi une action qui est un bon outil de gestion du temps. Bon, j'ai suivi plusieurs séminaires de gestion du temps. J'ai réussi à m'organiser dans le temps en faisant oraison. Quand on dit que ça, c'est la première chose, tout le reste s'organise. Il faudrait faire un séminaire là-dessus, c'est la gestion du temps. Évangéliser les séminaires de... Voilà. L'œuvre. Alors l'œuvre, elle s'inscrit dans le temps. C'est une finalité. Je construis ma vie d'homme ou de femme. Je peux regarder le rétroviseur, mais ce sont les autres qui l'apprécieront. Elle se construit dans le temps, l'œuvre. Hein. Donc le travail, l'action. Et alors le dénominateur de tout ça dans cette vie qui crée l'unité, c'est le contact avec autrui. La relation avec autrui, notre prochain. Nous sommes certes des êtres uniques, mais nous sommes aussi des êtres de relation, inscrits dans une histoire personnelle, familiale, qui peut être parfois lourde, et nous la portons. Pour nous, chrétiens, aussi, nous vivons et nous sommes censés vivre en relation avec un Dieu, Trinité, Père, Fils et Esprit. Un Dieu personnel avec qui nous avons une relation personnelle et non pas un raisonnement ou une idée. Et comment rendre témoignage de celui qui nous habite à ceux qui nous entourent? C'est d'abord un devoir de compétence et de cœur à l'ouvrage. Être ce à quoi notre mission d'homme, de femme, dans le monde, nous amène. C'est rarement brillant. C'est souvent austère, c'est souvent répétitif. Mais c'est l'amour, bon, parfois la notion de devoir quand même, hein, le matin en se levant. Bon. Mais c'est l'amour qui anime ça, tout ça. Alors, on ne peut pas aimer les gens, surtout ceux qui nous exaspèrent, parce qu'il y en a. Il ne faut pas se cacher derrière le petit bois, il y en a tous les jours, si on ne voit pas en eux le Christ. Voir dans notre vis-à-vis, parfois notre adversaire, parfois l'ennemi, il y en a, une personne sur laquelle Dieu a le même plan d'amour que sur nous, eh bien c'est parfois difficile. C'est savoir aussi ne pas prendre les mêmes armes que lui, que l'adversaire ou l'ennemi, pour défendre ce que nous sommes ou prétendons être. Souvent, on a des prétentions. Hein. Et ce, dans notre vie familiale, professionnelle et nos responsabilités diverses. Et autre sujet, et je crois que c'est important, dans la vie professionnelle, mais aussi sociale ou familiale, parce que c'est important, on ne peut pas dissocier tout ça, c'est de discerner la tentation de la dispersion. C'est une tentation fréquente, au-delà de sollicitations qui peuvent être parfois flatteuses. Est-ce que cela correspond à l'unité de la question de ma mission de mari, de père, de professionnel? Est-ce que cela ne va pas perturber, ce qu'on me propose, ne va pas perturber l'équilibre familial ou fragiliser le service ou l'entreprise dont j'ai la charge? D'un autre côté, il ne faut pas avoir de fausse humilité qui, pour reprendre le mot de Thérèse, est de cheminer dans la vérité. Qu'est-ce que la vérité de nous-mêmes? Quand on a des dons, et surtout lorsqu'ils sont reconnus par d'autres, on ne les enfouit pas. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire, comme Michel Audiard, que ne pas reconnaître ses talents, c'est favoriser la réussite des médiocres, mais quand même, de temps en temps, il faut savoir être ce qu'on est, quoi. Et il faut savoir aller au charbon, quoi. Et parfois, on se plante quand on va au charbon. Mais il faut y aller. Et à force de vouloir avoir les mêmes propres, on n'a plus de mains. Et alors, si on vient nous trouver pour un poste, une fonction qui va au-delà du caractère strict de la mission, et qui peut rompre un rythme qui va bien, pourquoi pas, mais il faut bien discerner. Alors, c'est ainsi que dans refait un peu le film de la carrière, et vous faites un peu le retour sur vous, on commence des études, un début de vie professionnelle, on a programmé sa vie, cependant d'une chose à l'autre, d'une circonstance à l'autre, on se retrouve ailleurs de ce qui était initialement prévu. J'en connais certaines parmi vous, qui ont commencé sur un chapitre d'activité professionnelle et qui se retrouvent à d'autres... c'est l'imprévu, donc c'est très bien, c'est très beau. Et donc, il y a des occasions qui font que les projets se modifient, mais aussi parfois il peut y avoir des accidents de parcours qui modifient nos projets, imposent des adaptations, des sacrifices parfois, même des sacrifices dans l'obéissance, ça existe aussi. Dans le milieu universitaire dans lequel je gravite, il y a une grande liberté. C'est extraordinaire, c'est un milieu très libre. Et la tentation, mais ce milieu très libre, mais souvent ça pontifie beaucoup, mais quand on y vit dedans, et les universitaires qui sont parmi nous savent très bien que c'est souvent la cour de récréation de maternelle, hein, parfois, au-delà de l'apparence. Et la tentation, dans la vie universitaire, c'est souvent de ne voir la vie qu'ailleurs que là où elle doit se passer. Pourquoi? Parce qu'on est déçu de ce qu'on nous confie. De l'absence de reconnaissance, d'adéquation à l'idée que nous nous faisons de notre mission. Ailleurs, ça pourrait être mieux et mieux correspondre à ce que je suis. Et pour moi, là-bas, on me reconnaît, on sait qui je suis, etc. C'est possible, mais est-ce que c'est une vraie réflexion sur notre métier, notre mission? Notre tentation, alors, c'est l'activisme. Comme on dit en patois chez moi, on tabaneige, quoi. Hein, on s'étourdit dans les mondanités, les copinages, quoi. Un des malaises du monde contemporain, et moi que je vis à l'hôpital, à l'université, c'est ce que La Fontaine appelait le sombre plaisir d'un cœur mélancolique. Les gens, ils se complaisent dans la tristesse de ce que le monde leur propose comme travail, etc. Les pères du désert l'appelaient l'acédie, hein, qui est une espèce de péché contre la joie d'être ce que je suis et de ce que je reçois. Que je dis à mes collègues, souvent découragés, mais tu changeras pas la France, tu changeras pas l'université, tu changeras pas l'hôpital. Ton boulot, c'est de changer à 5 mètres autour de toi. La vie à 5 mètres autour de toi, que les gens aient de la joie à 5 mètres autour de toi. On ne changera pas le monde, mais petitement, dans l'ordinaire des jours, on peut changer le cœur et la vie des gens. Mais on ne le voit pas. Il ne faut pas vouloir le voir d'ailleurs. Mais les gens peuvent vous le dire des années après. Et dans les sujets sociétaux, en ce qui me concerne directement, la fin de vie, les responsabilités de, de gouvernement, enfin de responsabilité que j'ai, le pouvoir ne peut venir que d'une autorité qui aide à grandir les autres, qui aide à faire grandir les autres. Alors j'ai des problématiques, par exemple la problématique de la fin de vie, c'est très actuel. Ce n'est pas faut-il donner la mort ou s'acharner, ça c'est la tragédie grecque, hein. Mais c'est avoir, c'est voir la problématique, le fond du problème, c'est voir dans tout être humain le visage du Christ. Cet homme ou cette femme, dans le pire état physique, psychologique ou moral, est mon frère ou ma sœur en Christ. C'est facile à dire, c'est facile à annoncer, c'est difficile à faire, à mettre en pratique, et une épreuve d'humilité qui est toujours renouvelée. C'est pas parce qu'on a des principes que c'est facile. Et dans les responsabilités administratives, bon, pour un moment, au sommet des responsabilités hospitalo-universitaires de mon hôpital et de ma faculté, le respect de la distinction des pouvoirs, du non-cumul des mandats, la cohérence des décisions, la recherche patiente, parfois décourageante, du sens du bien commun, être l'artisan de l'unité d'une communauté qui est diverse, accepter aussi d'être contesté, reconnaître ses erreurs, chez des gens qui sont en difficulté, ne pas écraser le roseau froissé, ne pas éteindre la mèche qui faiblit et juger en toute fidélité, comme dit le prophète Isaïe, c'est parfois difficile et c'est une réflexion permanente. Alors en pratique, pour conclure, revenons à Thérèse, qui fait notre unité autour de celui qu'elle a aimé. C'est l'oraison qui est ancrée dans le Christ, ce n'est pas une méthode de relaxation, elle a une finalité, c'est le Christ. Son objet, donc, ce n'est pas nous, nos soucis, même si on y voit trop souvent passer le film de notre vie, c'est une relation concrète, silencieuse, voire banale. Prier, ce n'est pas être intelligent, c'est être là, disait Madeleine Delbrel, et ça reprend un peu les débats et les questions que nous avions hier dans les carrefours. Mais ce qui fait durer, ce ne sont pas les satisfactions, elles disparaissent assez vite, c'est la certitude qu'il est là. Cependant, l'expérience aussi d'une fécondité, elle est là. Combien de fois nous disons-nous, j'ai une réunion difficile, je suis fatigué, je vais dormir un peu plus, ou je vais, bon, le temps consacré à l'oraison, je vais préparer un peu mieux mon argumentaire, comme ça je vais me les faire, etc. Je vais avoir l'attaque, je vais pouvoir avoir ce que je veux, etc., dans la négociation. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça a été pire que auquel on s'y attendait. Alors que si on a pris le temps de ce qu'on s'était fixé de faire, de présence, de relation à Dieu, tout s'est relativement bien passé. Ça ne veut pas dire que les difficultés ne soient pas là, que les problèmes ne soient pas toujours présents, mais ça permet de relativiser, d'atténuer pour soi et pour les autres les problèmes qui s'étaient présentés ou les sujets qui étaient en débat. Ce temps de raison, il n'est pas pour nous, il est pour le Seigneur. Lui, il ne nous laisse pas seuls et c'est mieux que nous ce dont nous avons besoin. Il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. C'est une affaire, c'est son affaire entre lui et nous. Et nous, on reçoit. On donne peut-être, mais on commence par recevoir. Cela ne se superpose pas, ne s'ajoute pas à notre vie de couple ou à notre vie professionnelle et elle en fait partie intégrante, consubstantielle, mais à l'année distincte. Par analogie, dans le mariage, on ne fait qu'un. Mais en fait, on est deux, au plan physiologique, ça se voit, mais aussi au plan spirituel. Si je, à la maison, quand je suis à la maison, les rares fois où j'y suis, elle vient, me trouve et elle me dit, vient me demander de, je sais pas quoi, planter les tomates ou planter un laurier, et que je dis, attends, ma chérie, je suis en oraison, la bouche en cœur, les yeux au ciel, elle va m'envoyer balader. Et elle aura raison. Bon, donc c'est à nous de nous organiser, quoi, pour ce qui est essentiel, quoi. Bon. Et alors, on n'est pas formaté pareil, dans le couple, on n'est pas formaté pareil au plan spirituel, et donc il faut se caler l'un l'autre, et c'est très bien. C'est une belle expérience. Un autre fruit de l'oraison, en fait, c'est sa poursuite dans la journée. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important. Ça peut être, j'ai dit la poursuite parce que c'est surtout l'irruption du bon. Alors, ce n'est pas nous qui allons, c'est l'irruption du bon Dieu dans les occupations. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi, il s'invite. Bon. Il s'invite, vous attendez à la caisse de supermarché, vous êtes toujours dans la mauvaise file, donc c'est là vous attendez plus que le voisin. C'est la tension des temps morts quand vous allumez votre ordi. Moi, j'ai un ordi, il est chargé, donc il met du temps à s'allumer. Bon, il s'invite, quoi. Et comme dit le pape François, j'ai l'impression d'être dans les mains de quelqu'un comme si Dieu me prenait la main. C'est un peu ça l'oraison aussi. C'est ça l'oraison aussi. Alors, il ne faut pas tomber dans l'illuminisme ou la confiture de moraline des bons sentiments. Et quand on lit le livre des fondations de la Sainte, elle sait ruser, être rusée comme le serpent, et Candide comme la colombe. Hein. Et dans les œuvres, c'est amusant parce que je trouve que c'est assez savoureux de lire ça. Elle se débrouille toujours pour se faire ordonner ce qu'elle a décidé de faire. Et comme dit le Saint-Père, elle est un peu rusée, quoi. Bon. Alors, cette vie intérieure, elle nous recadre le dispositif, quoi. Cela guide et oriente un peu à notre insu, d'ailleurs, souvent à notre insu. Hein, c'est pas volontaire. Notre action, notre manière d'être et de faire, qui est plus ajustée, plus apaisée, ordonnée à la mission, et un don de soi qui, pour reprendre les bons auteurs, doit être le plus absolu, le plus indéterminé et le plus renouvelé possible. La tentation aussi, parfois, c'est de tout larguer quand ça va mal. Qu'on a l'impression de prier mal, ça arrive tous les jours. Le feu, il y a le feu partout, à la maison, à l'hôpital, au beau milieu de trucs importants. Est-ce qu'il faut choisir la place d'une prise de courant, la couleur de la peinture, bon, bref, d'un dessus de lit, etc. Bon. Mais c'est bien. Mais elle fait toujours pour, elle se débrouille toujours pour que je sois d'accord avec ce qu'elle a décidé de faire. Mais c'est vrai. Mais toi aussi, hein, c'est pareil. Finalement, c'est confortable, hein, Jean-François. La grande difficulté de cette expérience, en fait, c'est que c'est une expérience, quoi. Et l'expérience, ça éclaire souvent le chemin parcouru. Et souvent, c'est le catalogue des erreurs, comme disait Oscar Wilde. Alors certes, dans l'expérience, il y a des invariants que chacun peut retrouver, mais c'est une expérience où finalement, chacun doit se mettre à l'eau, quoi. Et pas pour faire la planche, hein, mais pour nager à contre-courant. Et aussi, c'est se tromper parfois. L'expérience de l'erreur, de se tromper. Et le problème de se tromper, c'est pas de tomber, c'est de se relever, quoi. Et ça, il faut avoir l'humilité de se relever, d'accepter d'avoir fait l'erreur, mais aussi de se relever, quoi. Et il y a une attitude chez le catho de bonne volonté d'attribuer toutes les vertus à la prière comme si elle allait tout résoudre. Eh bien non, Les ennuis seront toujours là, l'enfant en difficulté, les fins de mois difficiles, le chômage, les problèmes humains, dans notre milieu de travail, dans le milieu familial, de couple, etc. Mais la foi, elle nous permet de posséder ce qu'on espère. Hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Elle est là donc pour nous aider à confier en Dieu, dans la prière, et souvent, la réponse, elle est ailleurs de là où on croit, où on veut croire qu'elle est. Il faut relire Job, quoi. Alors, c'est sûr, sur le moment, ça ne fait pas plaisir. Et d'ailleurs, Thérèse le dit bien, hein, vous étonnez pas d'avoir si peu d'ennemis, vous les traitez si mal, quoi. Hein. Le paradoxe de Sainte Thérèse et d'autres, comme Saint Bernard, c'est qu'ils auraient voulu prier tout le temps, alors qu'ils ont passé une partie de leur vie sur les routes. Et Thérèse d'Avila, finalement, sa fécondité, ça n'a pas été les 20 ans où elle a tourné autour du pot de l'oraison dans son couvent. Et c'est le moment où elle a commencé à faire oraison et parcourir l'Espagne, ses œuvres. Et s'ils n'avaient pas fait Saint Bernard, Sainte Thérèse, eh bien, rien ne, on ne serait pas là, quoi. Hein. on ne serait pas là. Saint Jean de la Croix, dans son ermitage de Duruelo, il allait dire la messe, célébrer et confesser dans les villages alentours. Hein. Autre mauvaise vision qui me semble un peu erronée, on a fait du Carmel, mais aussi des jésuites, des ordres religieux, hein, des ascètes qui respectent la règle, l'observance, et avec des têtes de réclame pour lavement, quoi. Hein, pour plus. Des gens tristes, quoi. Hein. Nietzsche disait des chrétiens qu'ils n'avaient pas des têtes de ressuscité, quoi. Ils n'avaient pas des gueules de ressuscité. Hein. Et d'ailleurs, Saint-François de Sales le disait avec l'onction de la belle langue du XVIIe siècle, un saint triste, c'est un triste saint. Quoi. Et Paul Claudel, dans sa langue acérée, disait que vivre avec les catholiques, c'était le purgatoire des convertis. Quoi. Et un peu plus loin, il disait, elle est trop pieuse pour se convertir. Quoi. Non mais ça, je veux dire, c'est important ça. C'est important parce qu'il faut être très prudent dans notre matière d'être et de faire. Hein. J'étais mal élevé chez les jésuites, et alors il courait une maxime qui était attribuée à saint Ignace, j'aurais terminé là. Prie pour, comme si c'est Dieu qui agit, et agis comme si tout dépendait de toi. Moi ça m'allait bien, c'était comme la prière scout, apprenez-moi à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci les blessures, à travailler sans chercher le repos, etc. Or, la vraie maxime qui est attribuée à Ignace et le rapporté par un jésuite hongrois qui dit, elle est plus subtile, elle dit « Crois en Dieu comme si tout le cours des choses dépendait de toi, en rien de Dieu, cependant mets tout en œuvre en elle, comme si rien ne devait être fait par toi et tout de Dieu seul. » C'est beaucoup plus subtil. Un évêque récemment consacré a choisi comme devise empruntée à Madeleine d'Elbred, il ne convient pas d'agir, mais d'être agi. Il y a les deux. Alors je voudrais, et souvent dans la vie spirituelle, on a tendance à voir ces saints comme un long fleuve tranquille. Et finalement, nos décisions et notre vie, elle est le fruit de décisions multiples et d'une croissance. Le fruit d'événements, de décisions, d'événements, et tout ça a construit ce que nous sommes aujourd'hui, hein, dans notre vie tout court, qui englobe aussi la vie spirituelle. Alors, je voudrais citer ce passage de Malicroix, d'Henri Bosco. C'est un écrivain dont la tombe se trouve à Lourmarin, pas loin d'ici, à côté de celle d'Albert Camus. J'aime beaucoup Albert Camus, alors. Je le cite, il arrive que les grandes décisions ne se prennent pas, mais qu'elles se forment d'elles-mêmes. Le débat du pour et du contre pèse peu en regard de cet obscur cheminement. L'acte de volonté ne se détache pas de nos hésitations pour les trancher. On ne s'aperçoit pas qu'on a pris un parti, mais on fait tous les gestes qu'il comporte insensiblement. On s'engage ainsi par l'action la plus modeste dans un mouvement d'actes simple et naturel qui se précise peu à peu. Quand cette décision nous est devenue claire, tout est décidé. Dans la vie spirituelle, comme dans la vie de tous les jours, qu'elle soit professionnelle, familiale, les choses se passent souvent ainsi. Nous en faisons l'expérience tous les jours, du moins. Pour ma part, j'en fais l'expérience. Nous sommes fragiles, nous sommes faibles, vulnérables sous un peu les oripeaux de l'apparence ou de la situation ou de la position sociale. Mais nous sommes des êtres faibles. Et ce que l'on sait et ce dont on est sûr, c'est notre foi. Et dans ce chemin, nous ne sommes jamais seuls. Et c'est le poème de Thérèse, hein. Celui qui a Dieu, il ne manque rien, et Dieu seul suffit. Et c'est ainsi que je vous remercie, mais je voudrais vous remercier, parce que avec mon épouse, là, qui est présente, ça fait près de 30 ans que nous venons ici. C'est un peu notre deuxième maison. Et je voulais remercier non seulement ceux qui nous ont donné les enseignements à cette table ou ailleurs, mais ceux que nous avons pu croiser ici et là à Notre-Dame-de-Vie, mais surtout en dehors et même au-delà des océans, qui montrent ce que c'est qu'une vie spirituelle et un engagement professionnel. Merci.
Grand merci Olivier. Je voudrais dire aussi merci Colette. Bien, je ne sais pas, comme on a la messe à midi, est-ce qu'il y a quelques questions éventuellement à Monsieur Jonquet et au Père Étienne qui est là? On peut prendre quelques minutes parce qu'on a quand même un peu de temps.
On a parlé de peinture hier, on a parlé de littérature. Il y a un poète que j'aime beaucoup la poésie. Et il y a un poète que j'aime beaucoup, c'est pas un père de l'Église. Je ne sais pas s'il avait une vie spirituelle, au contraire, il s'en défendait. Mais j'ai eu la chance de lire le fac-similé de ses cahiers, Paul Valéry. Paul Valéry écrivait tous les matins. Et jusqu'à son dernier jour, il a écrit. Et il a écrit ses dernières, sur son cahier, les dernières phrases. Le nom de Dieu s'est trouvé associé au mot amour que depuis le Christ. Et il avait une très belle écriture déliée, il dessinait très bien, dans ses cahiers on le voit. Et là, c'était l'écriture de l'agonie qui écrivait ça. Cet homme-là qui a nié toujours Dieu, enfin, qui n'a pas fait le pas, qui ne s'est pas lancé, il a fait d'abord de très beaux commentaires de Saint Jean de la Croix, mais il a fait aussi de très beaux poèmes. Alors je voudrais vous en lire un, mais ça peut nourrir la vie spirituelle. Ces jours qui te semblent vides et perdus pour l'univers ont des racines avides qui travaillent les déserts. Patience, patience, patience dans l'azur, chaque atome de silence et la chance d'un fruit mûr. Et je ne sais pas s'il y avait une notion religieuse ou spirituelle là-dedans, mais personnellement, c'est quelque chose qui peut nourrir, au même titre qu'un tableau, un beau paysage, une belle œuvre, un commentaire. C'est quelque chose aussi qui peut nourrir la vie spirituelle. C'est tout l'être qui avance là-dedans.
À Peggy.
Ah, Peggy. Il ne l'a pas apporté.
À savoir, par rapport à ce que vous disiez, moi je sais qu'il y a un texte que j'ai mis du temps à comprendre et qui après m'a aidé effectivement à rentrer dans une spiritualité plus. Excusez-moi, mais ça m'a amené là. On choisit parfois d'être Marthe ou Marie. Je pense que j'ai choisi d'abord d'être Marthe. Et quand j'ai compris qu'on était à la fois Marthe et Marie, c'est ce qui m'a permis d'accéder à une spiritualité, parce qu'en fait, il est dit qu'en fait, Marie a choisi la meilleure part, c'est ce qui est dit en fait dans le texte, et c'est vrai que ça interpelle. Au départ, quand on le lit du au premier degré, il y a Marthe, il y a Marie, et on se dit, c'est Marthe qui est la plus, qui est la plus active, voilà, qui a le meilleur rôle, et puis quand on comprend que c'est Marie, on se dit en fait, quand Jésus dit à Marie, c'est toi qui as choisi la meilleure part, ça te bouscule quand même. Et c'est peut-être ce qui permet effectivement ce qui m'a peut-être permis effectivement d'être plus en recherche d'une oraison plus, on va dire, plus ascendante. Alors qu'au fond, Jésus, je le cherchais, j'allais dire, au ras des pâquerettes, à savoir dans l'autre, mais avec tout ce qu'il est, ce qu'il n'est peut-être pas capable de me renvoyer à un moment donné, parce que les autres ne nous renvoient pas toujours ce qu'on attend. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est un peu un témoignage entre Marthe, Marie, et le fait de... On passe de l'une à l'autre, alors qu'au départ, je pensais qu'on était ou l'un ou l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et voilà.
Le commentaire théologique, Marthe et Marie, je m'en dispenserai, je ne suis pas assez compétent, mais enfin, aussi Marthe, quand elle s'affairait pour le Seigneur, donc bon... mais souvent, on est trop français. Moi, ce qui me choque un peu, on est trop français... On sépare trop. on sépare trop les choses. Et on le vit dans la vie spirituelle. Il y a d'un côté, souvent, on sépare trop la vie spirituelle de la vie de tous les jours. Et on veut la distinction, vos séparations, alors que c'est deux choses qui sont faites pour être réunies. Alors elles occupent peut-être des temps différents, mais c'est la même chose, quoi. Et l'un nourrit l'autre. Et l'un est nourri par l'autre. Et aussi l'oraison, elle est nourrie aussi par la vie de tous les jours. Hein. On va avec ce qu'on est. Hein. Donc, le commentaire théologique, je vous le laisse. Hein. Mes pères. Et néanmoins amis. Oui.
Olivier, dans l'exercice de ton métier, tu es amené parfois, peut-être même assez souvent, à accompagner et conseiller des familles et des patients, des malades, des personnes qui font l'expérience de la souffrance, de l'impuissance devant la souffrance, de l'approche de la mort sans doute. Est-ce qu'il arrive que le dialogue te permette en quelque sorte de décrocher du rôle du médecin pour entrer dans une dimension qui concerne la vie spirituelle de la personne soignée ou des membres de la famille qui sont face à l'approche de la mort?
C'est très délicat. C'est très délicat parce que c'est des moments qui sont forts et je ne vais pas arriver avec l'étendard. J'ai souvent les mains dans les poches et dans les poches, je tripote ça. Petit chapelet. Et je ne vais pas le sortir à quelqu'un. Bon. Et donc, et ensuite, c'est pas... On va brusquer les gens. Mais il y a des gens que l'on connaît depuis longtemps ou qu'on a accompagnés pendant un temps suffisamment long pour sentir que il y a quelque chose, quoi. J'avais un patron qui disait il nous faisait rentrer dans une chambre, il nous disait qu'est-ce que tu vois ?
Ben, je sais pas, je vois un malade, une table de nuit. Bon.
Mais la première chose que tu rentres, quand tu rentres dans une chambre, tu regardes la table de nuit. Et sur la table de nuit, il y a des choses, enfin il y a des objets qui donnent une idée de la personne qui est dans le lit. Bon. Et alors bon, on peut voir des choses. Et puis aussi, il me disait, quand tu t'occupes d'un malade, il faut que tu saches son nom, son prénom, son âge, son statut social, son métier, s'il est marié, s'il a des enfants, des petits-enfants, et son hobby. Ça commence, rentrer dans les gens, ça commence par être ce qu'ils sont, enfin, rentrer dans ce qu'ils sont. Et puis après, on peut, par gradation, on peut aller. Et puis ça peut arriver. Mais est-ce qu'on a besoin, quelquefois, de l'explicite pour avoir une relation sur ces sujets-là? Et quelquefois, il y a des regards ou des attitudes qui valent mieux. Avant de partir, j'ai promis de prier pour une malade. Elle n'est pas bien. Elle a perdu sa fille dans le service il y a 10 ans, qui était handicapée. Elle a perdu son service, son mari dans son service, dans le service il y a un mois ou deux. Et là, elle est dans le service. Donc le service part de sa vie. Hein. Et en plus, c'est une chrétienne qui a épousé un juif observant. Et donc, on a des échanges sur le judaïsme, sur la pratique, etc. Et alors là, c'est à partir du judaïsme que je suis arrivé à savoir qu'elle était chrétienne. Je pensais qu'elle était juive. Bon. Mais ça, c'est des discussions qu'on a pu avoir. Et en partant, elle m'a dit, vous priez pour moi. Vous allez voir votre fils, allez prier pour moi. Ça, c'est des choses. Mais elle ne va pas... Elle est malade. Mais on arrive à avoir des échanges. Mais il faut éviter... Il faut être très délicat et très prudent sur ces jeux. Alors, quelquefois, on sent que ça peut débloquer des situations. Et ça, il faut être attentif. Et ceux qui, dans l'assistance, sont infirmiers ou médecins qui s'occupent de soins palliatifs peuvent le sentir, ça, ou accompagner. Mais je crois qu'il faut être très, très délicat parce que, quelquefois, en voulant être trop, on est trop, quoi. Et on a l'effet inverse de celui qu'on voulait obtenir. Dans ces affaires-là, il y a beaucoup de... Il faut sentir, quoi.
C'est Dieu qui parle. Je sais, moi, combien c'est difficile. Et combien de fois, quand ils peinent tant dans leurs épreuves, j'ai envie, je suis tenté de leur mettre la main sous le ventre, pour les soutenir dans ma large main, comme un père qui apprend à nager à son fils dans le courant de la rivière, et qui est partagé entre deux sentiments, car, d'une part, s'il le soutient toujours et s'il le soutient trop, l'enfant s'y fiera et il n'apprendra jamais à nager. Mais aussi, s'il ne le soutient pas juste au bon moment, cet enfant boira un mauvais coup. Ainsi, moi, quand je leur apprends à nager dans leurs épreuves, moi aussi je suis partagé entre ces deux sentiments, car si je les soutiens toujours et je les soutiens trop, ils ne sauront jamais nager eux-mêmes. Mais si je ne les soutiens pas juste au bon moment, ces pauvres enfants boiraient peut-être un mauvais coup. Telle est la difficulté, elle est grande. Et telle est la duplicité même, la double face du problème. D'une part, il faut qu'ils fassent leur salut eux-mêmes. C'est la règle, et elle est formelle. Autrement, ce ne serait pas intéressant. Ils ne seraient pas des hommes. Or, je veux qu'ils soient virils, qu'ils soient des hommes, et qu'ils gagnent eux-mêmes leurs éperons de chevalier. D'autre part, il ne faut pas qu'ils boivent un mauvais coup, ayant fait un plongeon dans l'ingratitude du péché. Tel est le mystère de la liberté de l'homme, dit Dieu, et de mon gouvernement envers lui et envers sa liberté. Si je le soutiens trop, il n'est plus libre, et si je ne le soutiens pas assez, il tombe. Si je le soutiens trop, j'expose sa liberté, et si je ne le soutiens pas assez, j'expose son salut. Deux biens, en un sens, presque également précieux, car ce salut a un prix infini, mais qu'est-ce qu'un salut qui ne serait pas libre ? Comment serait-il qualifié ? Nous voulons que ce salut soit acquis par lui-même, l'homme, soit procuré par lui-même, vienne en un sens de lui-même. Tel est le secret, tel est le mystère de la liberté de l'homme, tel est le prix que nous mettons à la liberté de l'homme. Parce que moi-même, je suis libre, dit Dieu, et que j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Tel est le mystère, tel est le secret, tel est le prix de toute liberté. Cette liberté de cette créature est le plus beau reflet qu'il y ait dans le monde de la liberté du Créateur. C'est pour cela que nous nous y attachons, que nous y mettons un prix propre, un salut qui ne serait pas libre, qui ne serait pas, qui ne viendrait pas d'un homme libre, ne nous dirait plus rien. Qu'est-ce que ce serait ? Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Quel intérêt un tel salut présenterait-il ? Une béatitude d'esclave, un salut d'esclave, une béatitude serve. En quoi voulez-vous que ça m'intéresse ? Aime-t-on à être aimé par des esclaves ? S'il ne s'agit que de faire la preuve de ma puissance, ma puissance n'a pas besoin de ses esclaves. Ma puissance est assez connue. On sait assez que je suis le Tout-Puissant. Ma puissance éclate assez dans toute matière et dans tout événement. Ma puissance éclate assez dans les sables de la mer et dans les étoiles du ciel. Elle n'est point contestée, elle est connue. Elle éclate assez dans la création inanimée. Elle éclate assez dans le gouvernement, dans l'événement même de l'homme. Mais dans ma création animée, dit Dieu, j'ai voulu plus, infiniment mieux, infiniment plus, car j'ai voulu cette liberté, j'ai créé cette liberté même.
Voilà, grand merci.